Radio Bark, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Le Radio Bark 34e d'une 7e saison avec notre invité aujourd'hui, Henri Martin. Bonjour.
Bonjour.
Alors, dans l'ordre, maire de Port-la-Nouvelle, également un des vice-présidents du Grand Narbonne, de l'Aglo, et également, et ça va nous amener à y revenir, conseiller départemental, on disait jadis cantonal, on dit départemental, mais enfin, c'est toujours sur un canton, de toute façon, sur votre canton de Sigean, c'est ça canton,
Corbière-Méditerranée.
Corbière-Méditerranée. Donc, voilà trois casquettes qui vont nous occuper peut-être à divers degrés. Et si vous le voulez bien, Henri Martin, on va commencer quand même par la commune, puisque, en fait, c'est là que tout commence.
En quelque sorte, oui, mes premiers.
Cinquième mandat.
Mes premières amours ont commencé, ont débuté effectivement sur la commune de Port-la-Nouvelle, bien que ma première candidature politique a eu lieu en 1976, il y a quelques jours. En 76, au cantonal,
puisque c'est le cantonal. Voilà. Alors, retour aux premières amours.
Exactement, en quelque sorte. Et c'est vrai que c'était pas absent dans mon esprit quand j'ai posé la candidature il y a 6 ans à Marie-Christine Thironcher. En effet, à l'époque, souvenez-vous, Francis Valls disparaît au Parlement de
Luxembourg, je crois.
Voilà. Et donc, l'année suivante, je me trouve confronté, parce qu'on m'y a invité, à Monsieur Ferrand, qui était son successeur sur le canton de Sigean. Alors, on m'a convaincu qu'il fallait y aller. J'avais des connaissances sur Carcassonne, tu devrais essayer. Bon, je me suis laissé un petit peu entraîner dans l'opération, et je dois dire que l'histoire boucle certaines boucles. Parmi les gens qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé, il y a Nouveau Narbonne. Et donc, Hubert Mouly avait sa brigade rapprochée, c'était Claude Aurit, c'était André Mecle.
Les historiques.
Et j'ai été très ému de constater que Didier Mouly lui rendait hommage, puisque vous avez baptisé dernièrement une avenue de son nom, à côté du Narbovia. Et ça m'a fait très très plaisir. Un homme de culture, un type extraordinaire, et qui était, tenez-vous bien, mon singe pour cette élection, parce qu'il y avait tout un tas de sujets à évoquer, comme la viticulture, qui était assez complexe, et qui détenait fort bien. Et donc, Hubert Mouly, à l'époque, avait détaché André Mecle pour me soutenir à cette douloureuse épreuve, qui fut douloureuse, au point que, et je vous le rappelle, ce scrutin s'est déroulé au moment où Émile Pouit et le commandant Le Goff s'entretuaient malheureusement sur le pont de Montredon. Et l'élection du premier tour a eu lieu 8 jours après. Voilà. L'élection a eu lieu 8 jours après. Et là, c'est pas une veste par laquelle j'ai démarré, comme c'est la tradition en politique, ni même une redingote. Je crois que c'est un manteau. C'est même plus gros qu'un manteau. C'est le cache-poussière qu'avaient les cochers quand ils étaient sur leur carrosse. Voilà.
Oui, donc, pourtant, vous eûtes alors un mentor prestigieux à la personne d'André Mecle.
Ah, c'était un homme délicieusement extraordinaire. Et qui savait qui était plein d'à-propos, et qui savait, dans les moments de difficulté, justement, à côté de la rugosité du père Aurit, qui est toujours tenant du titre, il arrivait à formuler les mots qu'il fallait au malheureux candidat qui se savait déjà condamné à un échec, mais qui a pris une rouée de coups absolument mémorable.
Ouais, enfin, mais en application de la fameuse formule de Coubertin, l'essentiel est de participer.
J'ai participé brièvement sur un tour, j'ai été liquidé sur un tour.
Et ça vous a quand même mis le pied à l'étrier pour la suite, d'une certaine façon.
L'année suivante, 77, première candidature à Port-la-Nouvelle, qui a eu pour résultat, et c'est pas une petite gloire, d'imposer à l'époque à la gouvernance socialiste de s'allier avec leurs amis communistes, ce qui fait que 6 ans après, je n'ai même pas eu un siège pour ma liste, mais 6 ans après, il y a eu donc implosion ou explosion, peu importe, et nous avons remporté la mairie avec mon collègue David Obissi, puisque nous sommes unis au second tour. Nous sommes partis de listes séparées au premier tour, et l'union du second tour nous a permis d'être élus en 83.
Voilà, donc M. David Obissi, maire, et vous entrez dans
Et je rentre à la mairie, je suis premier adjoint. Nous avions convenu de cette formule selon que le premier arrivait premier ou le second arrivait second. Donc il m'avait devancé 19 voix, et fort heureusement pour moi, je le dis très clairement, car j'étais un peu trop jeune peut-être pour la fonction, j'ai été son premier adjoint, et là aussi on apprend beaucoup avec des gens de cette trempe et de cette personnalité.
Oui, voilà, donc finalement la défaite a été très formatrice, et enfin, vous a stimulé. Quoi.
C'est ce que j'ai toujours dit à mes adversaires politiques, pour qui j'ai beaucoup de sympathie, non pas parce qu'ils sont contre moi, mais parce qu'ils s'engagent dans la vie publique. Je leur ai dit, essayez de tirer profit de vos défaites, ne soyez pas toujours aigris, hargneux, ça a toujours été ça, et ils se sont fait beaucoup de mal. Et finalement, eux n'y sont plus, moi je suis toujours.
Alors aujourd'hui, justement, vous êtes maire, je le disais tout à l'heure, 5e mandat, c'est-à-dire parti pour 30 années de mandat.
Hein. Pour un anniversaire, 30 ans, vous voulez dire.
Voilà. Et la ville, alors, la commune que vous gérez à trois visages, en quelque sorte, c'est d'abord, ça a été, c'est toujours un port de pêche. C'est devenu, évidemment, un gros port commercial et industriel. Mais c'est aussi une station balnéaire. On vient s'y baigner depuis fort longtemps. Même si ça, elle n'avait pas été choisie par la mission Racine, elle a quand même profité de cet aménagement, j'imagine, du littoral. Donc vous avez ce triple visage aujourd'hui. Et parmi alors d'autres aspects de cette ville, tout petit point d'histoire. J'apprends il n'y a pas très longtemps que dans votre commune, on a trouvé une bombe de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que les Allemands, pendant la Deuxième Guerre, avaient construit un certain nombre de bunkers sur votre commune. Parce qu'on attendait peut-être un débarquement.
Oui, absolument.
Qu'en reste-t-il aujourd'hui, Henri Martin ?
Alors, ce qui reste des bunkers, c'est quelques-uns qui ont été dynamités avant le départ des Allemands, et ensuite pas mal de bunkers qui sont restés en bon état, parce qu'ils résistent aux affres du temps. Ce sont des épaisseurs de béton qui vont jusqu'à un mètre d'épaisseur. Et donc, récemment, alors, je n'arrive pas à comprendre comment une bombe américaine a pu être...
Parce que c'est pas courant quand même sur votre commune.
Non, c'est assez particulier. Et donc une bombe américaine, effectivement, qui a été passivée par les démineurs. Voilà. Et donc ces bunkers ont été les spectateurs pour relier la première partie de votre présentation de cette évolution de Port-la-Nouvelle, de la Nouvelle, puisque le nom a changé juste après la Deuxième Guerre mondiale, sur ce triptyque à la fois port industriel commercial et activité balnéaire et la pêche, bien entendu. 62, c'est l'arrivée de nos amis rapatriés, de nos amis pieds noirs, qui viennent apporter un plus tant au niveau sociologique et population que dans l'économie, puisque eux ont des techniques de pêche qu'ils adaptent et qu'ils font adapter par les autochtones au secteur de Port-la-Nouvelle. Et à partir de là, donc, on fait avancer deux fronts, effectivement, ces trois économies. En plus, il y avait les salines du Midi qui étaient en pleine exploitation, qui faisaient entre 15 et 20 000 tonnes. Et heureusement pour nous, j'ai envie de dire, parce que parfois, quand l'une ou l'autre s'est un petit peu affaissé, l'autre était là pour compenser. Ce qui fait qu'à quelque chose de près, et à quelques saisonnalités près, le plein emploi a été pratiquement toujours d'actualité à Port-la-Nouvelle. Rares ont été ceux qui pouvaient dire « je n'ai pas trouvé du boulot ».
Oui, c'est-à-dire en fait grâce à cette biodiversité, comme on dit maintenant.
En quelque sorte.
En quelque sorte. On apprend aussi, alors là je ne sais pas si c'est aussi rarissime, qu'il y a parfois des secousses sismiques ressenties à Port-la-Nouvelle. Et pas seulement d'ailleurs, ça a été le cas il n'y a pas très longtemps.
Oui, certaines de mes voisins m'ont indiqué avoir ressenti cette secousse. Je leur ai dit très poliment que moi aussi je l'avais ressenti.
Ah oui. Non, c'est... Oui, les sismographes sont plus précis, j'imagine, pour analyser ça.
Oui, ou alors il faut être dans un moment de concentration particulier, ou regarder un objet, regarder un lustre qui tout d'un coup se met à vibrer au niveau des vampires. Je dois dire qu'à ce moment-là, je devais être affairé à d'autres activités qui ne m'ont pas permis de détecter effectivement ces secousses.
Alors, puisqu'on est dans les questions un petit peu anecdotiques, voire folkloriques, quid de l'île de la Nadière ? C'est une petite île anciennement de pêcheurs qui est sur l'étang, qui a été abandonnée, qui n'est plus habitée aujourd'hui, mais qui l'a été et qui est une sorte de patrimoine, je ne sais pas, pour vous, sur la commune, qui a en tout cas donné son nom au collège de Port-la-Nouvelle, la Nadière.
C'est vrai. L'île de la Nadière est à l'origine de la création de la Nouvelle. Sur l'île de la Nadière, on y trouve des pêcheurs, on y trouve des nouvelinques, mais on trouve aussi des gruissanotes, puisqu'il y a des gimiers au cimetière de la Nouvelle, quelques gruissanées. Et ce qui explique peut-être ce lien qui a toujours perduré entre Gruissant et Port-la-Nouvelle, même s'il n'a pas été exacerbé et s'il n'a pas été cultivé par manque de voies de communication. Car je vous le rappelle, pour venir de Gruissant à Port-la-Nouvelle pendant l'été, je l'ai défendu d'ailleurs à la Commission supérieure des Jeux pour aller obtenir notre licence de casino, il faut pratiquement trois quarts d'heure ou une heure. Il n'y a pas de voie de communication.
Alors que,
à Paris, devant une carte, le fameux jury d'une trentaine de personnes, eux me disaient, mais c'est juste à côté. Ah, alors on va redonner un casino.
À la nage.
Voilà, ils ne se rendaient pas compte de la proximité. Voilà. Donc il y a toujours eu des liens forts. Alors, l'année dernière, figurez-vous que le hasard a fait que la commune vienne d'intervenir en reprenant la propriété de tout ce qui n'était pas communal pratiquement, hormis les propriétés privées, à une association qui a été montée à l'époque par le docteur Comte, qui était un médecin cisjanais, qui était passionné par ce qui se passait dans l'étang, et qui associait avec la famille Reynaud les pêcheurs, le gondolier, a remis en état cette île de la Nadière en partie, et a rénové quelques habitations à l'époque où on pouvait rénover, réhabiliter, remettre, vous voyez, voilà. Mmh. Mais il le faisait avec beaucoup d'applications et c'était très ressemblant par rapport à l'origine. Je veux dire, il ne s'agissait pas de monter des maisons n'importe comment pour jouer les Robinson Crusoe du dimanche. Non, c'est quelqu'un de très appliqué. Et il se trouve que l'association, aujourd'hui présidée par M. Durand, nous a fait savoir que par manque de moyens, il sautait un petit peu que nous prenions le relais. La commune, maintenant, est donc était avant propriétaire de cette île, mais s'est rendu propriétaire de quelques fonciers en très mauvais état ou état médiocre, et d'un cabanon qui se trouve dans le Canaé. Donc on va essayer de se rapprocher des prud'hommes, de la corporation des pêcheurs de l'étang et des pêcheurs en général, se rapprocher peut-être du PNR, donc du président Codorniou, pour essayer de discuter d'un projet commun.
Savoir qu'en
pour
faire, quoi.
Remettre en état, justement en gardant le caractère authentique et en faisant pas un lieu de visite détruit par le passage de dizaines et de centaines de personnes qui enlèverait de l'authenticité à cette île. Donc c'est une réflexion que nous allons mener, mais j'ai senti nécessaire de devoir récupérer la propriété de ce bâti au titre de la mémoire et au nom de toutes celles et ceux qui ont beaucoup lutté pour que Port-la-Nouvelle soit devenu ce qu'elle est devenue aujourd'hui.
Oui, parce que c'est quand même un lieu finalement où on ressent quelque chose. Quand on y est, c'est presque un peu un mystère. Enfin, on se sent loin de tout et tout près de Port-la-Nouvelle.
Puisque... Tout à fait. Et si ce n'était pas la ligne chemin de fer qui passe juste à côté et qui nous rappelle au monde contemporain, c'est vrai qu'on se met à voir revivre toutes ces bâtisses, les gens qui vivaient et qui vivaient dans des conditions particulièrement précaires.
Oui, absolument.
Il y a des gens qui tous les jours partaient à pied à la Nouvelle, d'autres qui partaient en barque. J'ai donné d'ailleurs le nom de pont de l'Abellé au grand pont qui arrive de la sortie usine Lafarge jusque derrière, puisque l'Abellé c'était Bellou, c'était la femme d'un habitant nadière dont le surnom était Rothschild, et qui venait tous les jours à la Nouvelle faire les commissions aller et retour. Rothschild, pourquoi ? Parce que il a travaillé dans un grand domaine terrien à Sijan, et lorsque le patron se séparait de certains vêtements, on les lui donnait, et il avait une redingote. Alors, quand on avait cette redingote, on l'avait appelé Rothschild, et puis voilà. Et sa femme allait rechercher donc, de quoi s'éclairer à l'église, d'ailleurs, puisqu'elle allait ramasser des restants de bouts de cierge, etc. Et ils étaient tellement superstitieux, quand il y avait de l'orage, ils avaient très peur de l'orage. Il remarquait le cierge que rallumait sa femme, le petit morceau de cierge qui restait, et il lui demandait de bien se souvenir de l'endroit où elle l'avait pris, parce qu'il avait fait cesser l'orage.
Voilà, quand je disais que c'était anecdotique, mais c'était très intéressant, on marque une première pause, Henri Martin, et on restera peut-être encore quelques temps sur votre nouvelle, alors pour parler d'autre chose que de la Nadière.